Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actu et à la une. Après l'effroi, l'Europe et les États-Unis condamnent nouvelles sanctions en vue contre la Russie et enquêtent sur le terrain au plus près de l'horreur de Boutcha, ces dizaines et dizaines de corps de civils exécutés découverts dans les rues de cette banlieue de Kiev. Le président ukrainien Zelensky s'est rendu sur les lieux du massacre aujourd'hui. Vous allez l'entendre. Les autres titres de l'actualité dans votre journal de 18h imminent. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des fruits noircis, une production en partie perdue, les dégâts du gel de la nuit dernière. Nous serons dans un champ de pruniers à Moissac dans le Tarn-et-Garonne où l'on attend une nouvelle nuit très froide. Dans ce journal aussi, 3 ans pour agir et pour que le monde reste vivable. Comment ? Les réponses du GIEC qui dévoile ses solutions face au réchauffement climatique dans son dernier rapport. Et puis un coup de fil resté sans réponse quand Nicolas Sarkozy ne répond pas à Valérie Pécresse après les sifflets d'hier à son meeting.
Dans un quart d'heure, nos invités de 18h15 seront vos idoles, Marion. Antoine Dupont et Romain Tamac, les numéros 9 et 10 de l'équipe de France de rugby et de votre club du Stade Toulousain. Tout frais vainqueurs, tous les deux du Grand Chelem, champion de France, champion d'Europe, mais où vont-ils s'arrêter ? Dans une demi-heure, demandez le programme. J-6 avant l'élection présidentielle. Quelle énergie pour les 30 ans à venir ? Qui propose quoi ? Nucléaire ou non ? Faites votre choix. Après 18h30, laissez-vous tenter dernière dans les coulisses des répétitions de la famille Dutronc. Et puis 18h40, on va défaire le monde avec Céline Landreau et toute la bande. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Le menu.
Il fait froid, on a besoin de se changer les idées. Alors ce soir, on défait le monde, vous propose une séance ciné CGR. Le numéro 2 des salles en France est à vendre. Mais comment va le cinéma français ? Covid, plateforme, vous verrez qu'on n'a pas fini de manger des pop-corn. On vous parlera aussi Pokémon et colloque pour seniors. Oui, parce que chez nous, la séance, c'est tout public.
Pourquoi pas ? 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes, et puis des points météo au fil de l'émission avec Louis Baudin, bien entendu. Bonsoir Louis.
Bonsoir Julien.
La tendance ?
Bah c'est simple, hein. Nuages au nord, soleil au sud. En revanche, les températures qui remontent partout.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Changement de décor pour Volodymyr Zelensky après le massacre de Boutcha. C'est sur le terrain que s'est affiché le président ukrainien.
Entouré de militaires équipés d'un gilet pare-balles, il s'est rendu justement à Boutcha, dans cette banlieue de Kiev où les corps de dizaines de civils ont été découverts dans la rue après le retrait des forces russes. Volodymyr Zelensky qui dénonce un génocide.
Nous savons qu'ici des milliers de personnes ont été tuées et torturées, avec des membres coupés. Des femmes ont été violées et des enfants tués. Ce sont des crimes de guerre que les Russes ont commis. Et ce sera reconnu par le monde entier comme un génocide.
La Russie, elle rejette toute responsabilité à l'image du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Les troupes russes ont évacué la ville entièrement le 30 mars. Le 31 mars, le maire de la ville a déclaré triomphalement que tout allait bien. 2 jours plus tard, a été organisée dans la rue cette mise en scène qu'on essaye maintenant d'utiliser dans un but anti-russe.
Mise en scène, les mots du ministre russe. On l'entend donc, Moscou dément, mais le monde s'indigne. Et d'ailleurs, Bénédicte Tassard, l'Europe se prépare à de nouvelles sanctions.
Oui, une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne est prévue après-demain. La France a déjà indiqué être pour un embargo sur le pétrole et le charbon russe. Pas un mot sur le gaz pour l'instant. En Allemagne, le ministre des Finances s'oppose à l'abandon des contrats gaziers. Une décision qui nous affaiblirait bien plus que Vladimir Poutine, selon Christian Lindner. D'ailleurs, pour sécuriser ses approvisionnements, Berlin prend temporairement le contrôle de la filiale allemande du groupe russe Gazprom. Côté sanctions, ce sont les pays baltes qui dégainent le plus vite. Déjà depuis vendredi dernier, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie n'utilisent plus d'énergie russe, quelle qu'elle soit, et l'ambassadeur russe en Lituanie vient d'être expulsé de Vilnius.
L'Europe qui propose aussi ses services, hein, Bénédicte, pour enquêter sur ces crimes de Boutcha.
Avec Bruxelles qui est prête à envoyer des équipes d'enquêteurs en Ukraine pour aider au recueil de preuves par le biais de 2 institutions européennes chargées de la police criminelle et de la coopération judiciaire. Des équipes qui rejoindraient sur place celles de la Cour pénale internationale déjà sur le terrain depuis 1 mois.
Explication signée Bénédicte Tassard pour RTL aux États-Unis. Joe Biden réclame un procès pour crimes de guerre. et promet lui aussi des sanctions supplémentaires contre la Russie. Moscou qui ne desserre pas par ailleurs son étau sous Mariupol. 90% de la ville est détruite selon son maire. Cet après-midi, la vice-première ministre ukrainienne a accusé les forces russes d'avoir bloqué une nouvelle opération d'évacuation de civils. Il serait encore 130 000 sur place.
RTL Soir.
18h05 et encore une nuit blanche en perspective pour de nombreux agriculteurs français.
Oui, dans leurs champs pour tenter de combattre le froid et ses effets sur les cultures. Les températures pourraient encore être négatives, notamment dans le Tarn-et-Garonne où le gel des dernières nuits a déjà fait des ravages, comme l'a constaté Patrick Hisson à Moissac auprès d'un producteur de prunes.
Au milieu de son verger de prunes pourtant protégé, Maurice Andral a presque encore du mal à y croire car les dégâts sont considérables.
Quand vous regardez sur la branche, toutes ces prunes, elles sont toutes noires, il n'y a pas une prune verte. Comme vous pouvez constater, les deux variétés, elles sont gelées à 100%.
Sur ces 16 hectares de prunes, 7 au moins sont totalement perdus, avec 7 conséquences pour l'exploitation.
Comme l'exploitation quand même représente 15 salariés à l'année, et les pauvres, ils ne méritent pas de se retrouver sans travail du jour au lendemain comme ça, comme moi.
Parce qu'il y aura du chômage technique.
Je pense qu'on sera obligé.
Cet arboriculteur, victime pour la deuxième année consécutive, est aussi épuisé après deux nuits blanches à protéger ses vergers.
C'est les nerfs qui nous fait passer un peu par-dessus, quoi. Hein. On essaye de résister. Maintenant, peut-être quand on va craquer, on va craquer. Parce que là, maintenant, ils nous rallongent encore une nuit à moins de 3. Et là, on est en train de tout repréparer pour repartir pour une nuit supplémentaire. Ça sera 3 nuits consécutives. Bon, heureusement que ça va s'arrêter.
Reste l'air de l'État qui lui a permis l'an dernier de couvrir ses frais d'entretien des vergers, mais qui est très loin de compenser sa perte d'exploitation.
Le reportage de Patrick Hisson dans le Tarn-et-Garonne pour RTL. Louis Baudin, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y aura encore du gel effectivement dans certaines régions dans les prochaines heures?
Ben oui, malheureusement, là où le ciel sera encore dégagé cette nuit, donc principalement dans le sud, entre la vallée de la Garonne et la vallée du Rhône, là on aura encore parfois de fortes gelées.
Et en tout cas, la nuit dernière a été la plus froide pour un mois d'avril depuis 1947. Et hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que le GIEC, le groupement d'experts sur le climat, rendait son dernier rapport sur le réchauffement climatique.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Spécialiste environnement sur RTL. Alors, on vient de parler du froid et de ses conséquences sur les cultures. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces cultures qui sont fragilisées, c'est aussi lié au réchauffement, c'est ça?
Oui, alors, du froid en avril, ce n'est pas nouveau, Louis. Hein, il y a toujours eu des risques de gel au printemps. Ce qui a changé, c'est qu'avec le réchauffement du climat, il y a des périodes de douceur plus précoces. Souvenez-vous, en mars, on était en t-shirt. Donc, les arbres fruitiers, la vigne, se réveillent plus tôt. Et ça, les agriculteurs le constatent depuis 15 ans. À cause du réchauffement du climat, les bourgeons se forment en avance. Et quand le gel de printemps classique arrive, ça se transforme en catastrophe pour les récoltes.
Voilà. Alors, pour ce qui est de ce dernier rapport du GIEC, Virginie, qui s'intéresse aux solutions face au réchauffement climatique, que dit-il? Qu'est-ce qui est préconisé?
Alors, ce rapport insiste fortement sur la viande. Il ne dit pas que nous devons tous devenir vegan, mais qu'il faut réduire notre consommation, car la production de viande crée beaucoup de gaz à effet de serre, hein, le gasoil, les engrais pour faire pousser les grains qui nourrissent le bétail, autant consacrer le blé ou le maïs directement pour les humains. Parmi les solutions les plus efficaces, ils préconisent les énergies renouvelables plus que le nucléaire. Leurs coûts ont baissé de 85% en 10 ans, le coût des batteries aussi, donc on va pouvoir les stocker. Enfin, ce rapport, je le rappelle, adopté par tous les pays, y compris pétroliers, conclut qu'il faut aller vite. Les émissions de gaz continuent d'augmenter alors qu'il faudrait qu'elles baissent de 43% d'ici à 2030 pour vraiment limiter la hausse des températures.
Explication signée Virginie Garin pour RTL. Et est-ce une preuve de l'utilité de la sobriété et des éco-gestes? En tout cas, après les appels à limiter la consommation d'énergie ce matin, eh bien, la consommation globale en France a été moins forte que prévu.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant. Nicolas Sarkozy vexé après les sifflets hier au meeting de Valérie Pécresse. On vous raconte tout juste après ça.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. RTL vous l'a révélé dès la mi-journée, sifflé hier lors du meeting de Valérie Pécresse. C'est peu dire que Nicolas Sarkozy n'a pas du tout apprécié.
Benjamin Sportouche, l'ancien président de la République, d'ailleurs, n'a même pas daigné répondre à la candidate depuis. Hein.
Oui, exactement. Selon nos informations, Valérie Pécresse a bien décroché son téléphone hier après le meeting pour appeler Nicolas Sarkozy et s'excuser des sifflets. Mais ça a sonné dans le vide, tout simplement parce que l'ancien président a refusé refusé, il n'a pas pris son appel. Alors dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on dit qu'il prend tout cela avec distance et philosophie. Enfin voilà pour les éléments de langage, mais en réalité, l'ancien président a été blessé par ses sifflets. Une colère froide m'a même confié l'un de ses proches. Une offense en fait, venant de sa propre famille politique. C'était inimaginable il y a encore quelques semaines. Donc autant vous dire que Valérie Pécresse peut oublier un soutien dans la dernière ligne droite. C'est définitif. Nicolas Sarkozy ne prendra pas position d'ici le premier tour pour personne, sauf que bien sûr, ce silence va sonner comme une neutralité bienveillante à l'égard de qui ? Bien d'Emmanuel Macron, avec qui Nicolas Sarkozy, on le sait, entretient de bonnes relations, des relations régulières, un soutien sans bruit qui convient très bien au président sortant, garder les électeurs de droite sans effrayer ceux de gauche.
Benjamin Sportouche, entre baisse des cours et ristourne gouvernementale, la chute des prix à la pompe la semaine dernière, 22 centimes de moins par exemple pour le gasoil à 1,89€ en moyenne. Les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, les images du conflit qui pèse sur la santé mentale des Français déjà affaiblis par 2 ans de crise sanitaire. Mais à partir de demain, chacun d'entre nous pourra bénéficier d'un accompagnement psychologique.
Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
8 séances chez un psychologue remboursé par la Sécu. On va être très concret ce soir. Ces séances, elles sont pour qui ?
Alors pour tout le monde, les enfants compris à partir de 3 ans. Elles s'adressent à ceux qui souffrent de dépression ou d'anxiété, d'intensité légère à modérée. Ça peut être un mal-être, une angoisse due par exemple à un deuil, une perte d'emploi, une rupture, à ceux également qui ont des troubles du comportement alimentaire mais sans complications ou des addictions à l'alcool, au tabac, au cannabis, mais il ne faut pas qu'il y ait de dépendance, c'est donc très cadré.
Donc si je rentre dans ces cases, comment je m'y prends ?
La première étape obligatoire, c'est de passer par son médecin généraliste, c'est lui qui vous fournit une lettre destinée à un psychologue. Ce psy, c'est vous qui le choisissez sur le site Mon Psy. 1300 candidatures pour l'instant reçues par l'assurance maladie sur 18 000 professionnels qui exercent en libéral.
En temps normal, une séance de psy, il faut débourser entre 60 et 80 euros. Ça veut dire que là, tout sera pris en charge ?
Alors, les tarifs fixés sont beaucoup plus bas dans ce cadre. Les psys volontaires pour ce dispositif acceptent d'être payés 40 euros pour la première séance d'entretien, 30 euros pour les 7 suivantes, 8 au total donc sur une année. C'est trop peu pour Géraldine Pierron, membre du collectif Psychologues Citoyens.
C'est-à-dire qu'il y a à peine le temps que ce lien de confiance puisse se tisser que déjà les séances vont devoir être terminées, le patient être orienté ailleurs.
On parle plutôt de soutien psychologique que de psychothérapie, remboursé donc par la Sécu à 60%, 40% par la mutuelle, mais il faudra avancer les frais.
Un accès facilité en tout cas pour un accompagnement psychologique, explication signée Odile Pouget, et ce sera donc à partir de demain.
Dans votre journal, Marion Calais. Merci Marion, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le temps maintenant, Louis, on évoquait avec vous à l'instant dans le journal se gèle encore dans certaines régions la nuit prochaine et au-delà demain. Est-ce que ça va enfin remonter ces températures ?
Oui, ça va remonter hein, en cours d'après-midi partout, mais c'est vrai que le matin on aura encore un ciel dégagé dans le sud, donc encore des gelées jusqu'à moins 2, moins 3 degrés, des Pyrénées jusqu'aux Alpes en passant par la vallée de la Garonne, la vallée du Rhône. Pendant ce temps-là, dans la moitié nord, là, pas de gelée parce qu'on aura déjà des nuages. Alors la limite entre les deux zones, c'est un grand classique, Bordeaux-Genève. Au nord, un ciel nuageux avec quelques pluies, pas de grosses quantités, mais un petit peu d'humidité par moment. Au sud de cette limite, ça restera donc dégagé toute la journée. Un peu de mistral et de tramontane. Et puis les températures, donc après ces quelques gelées matinales dans le sud, l'après-midi ça remontera 12 à 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 16 degrés même dans la moitié sud.
Merci Louis. Je vous invite à chausser vos crampons, Louis, parce qu'on va accueillir d'accord dans un instant deux invités exceptionnels dans RTL Soir. Antoine Dupont et Romain Tamac, les numéros 9 et 10 de l'équipe de France de rugby et du Stade Toulousain. 3 semaines après le grand chelem avec les Bleus, les deux copains sont-ils redescendus sur Terre ? On va leur poser la question, à tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Vous ?
Julien Cellier.
Les invités d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir accueille maintenant deux stars du rugby, le numéro 9 et le numéro 10 de l'équipe de France et du Stade Toulousain. Antoine Dupont, Romain Tamac sont nos invités. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, vous avez gagné il y a une vingtaine de jours maintenant le grand chelem avec les Bleus. Vous êtes champion de France, champion d'Europe, meilleur joueur du monde 2021. Pour vous, Antoine, vous serez le 13 avril à l'affiche du Stade. Formidable film au cinéma en noir et blanc sur l'épopée de Toulouse en 2021. On va y revenir. Avant toute chose, racontez-nous un peu le retour à la réalité là, ces 3 semaines depuis la victoire dans le tournoi Destination. Est-ce que dans les yeux des supporters, est-ce que dans ce qu'on vous dit tous les jours quand on vous croise dans la rue, ça a changé quelque chose? Parce que ça faisait quand même 12 ans que la France attendait ça.
Ouais, bien sûr, on sentait bien l'attente du public, mais c'était la même de notre côté, à l'intérieur, les joueurs et le staff. On avait vraiment envie de remporter cette compétition et voilà, d'avoir pu sentir cet engouement, cette ferveur pendant toute la compétition. Le dernier match dans un stade de France plein à craquer avec je sais pas combien de téléspectateurs, on a vraiment senti que les gens nous avaient supportés et avaient retrouvé cet enthousiasme de supporter le 15 de France.
Il s'est passé quelque chose, Romain, ce soir-là au Stade de France, la communion avec le public. Est-ce que vous avez encore des frissons quand vous y repensez?
Oui, c'est vraiment passé quelque chose parce que le public attendait ça depuis longtemps et avec l'ambiance qu'il y a eu, l'avant-match, les feux d'artifice, c'est vrai que même la communion qu'il y a eu à la fin du match, parce qu'une heure après le coup d'envoi, le stade était encore plein à craquer pour qu'on puisse les saluer et faire le tour d'honneur. C'est vrai que là, on a senti que s'est passé quelque chose.
On parle souvent de génération dorée pour parler de l'équipe de France en ce moment, mais c'est une génération qui n'avait pas gagné de titre jusqu'ici. Est-ce que c'est un moment fondateur, cette victoire dans le tournoi, et peut-être aussi la victoire contre les Blacks?
Oui, bien sûr, je pense qu'on est une équipe ambitieuse, et si on veut arriver au bout de nos ambitions, il faut en passer par là, par gagner des matchs importants, gagner des compétitions. C'est des générations, des équipes qui font des coups d'éclat de temps en temps, on en voit beaucoup, mais ce qui est dur, c'est de garder le cap, de garder cette ambition et cette exigence de l'excellence, enfin du moins de s'en rapprocher au maximum, et surtout avec les échéances qui arrivent, c'est important de pouvoir gagner ce tournoi.
Romain Tamac, vous dites en parlant des Bleus, on est habité par la gagne. Ça veut dire quoi être habité par la gagne concrètement dans la vie de groupe, dans la façon d'aborder les matchs au jour le jour?
Ça veut dire qu'on a un groupe qui a juste envie de gagner tout le temps, que ce soit aux entraînements, sur des petits jeux, même sur des choses anodines du quotidien, sur des jeux de cartes, quand on joue à la play, on a tout le monde envie de gagner tout le temps, tous les jours. Donc c'est ça, je pense, qui motive aussi cette équipe, c'est de gagner tout le temps, sur tous les matchs, même le match face aux All Blacks où c'était pour la première fois qu'on jouait contre les All Blacks. Personne n'était vraiment impressionné, on avait juste envie, c'était de gagner ce match. Donc ce groupe affiche ses ambitions sans s'en cacher, c'est ça qui est bien aussi.
Quand on est habité par la gagne, est-ce que 2023, le mondial en France, on assume son rôle de favori, on assume en tout cas de vouloir absolument le gagner?
Oui, bien sûr qu'on a envie de la gagner. Quand on se présente pour jouer une Coupe du Monde, évidemment, on a envie de la gagner. Quand on la reçoit encore plus et quand on sent qu'on a une équipe qui a le potentiel, qui a les cartes en main pour essayer de rivaliser, bien sûr qu'on a envie de la gagner. Après, de là, parler de favori, je pense que c'est pas une chose dont on se préoccupe aujourd'hui et c'est pas ça qui nous fera avancer et progresser. On continue notre progression justement, on a encore un an et demi pour se préparer, continuer à gagner des matchs, de l'expérience et de la confiance.
Il y a une image, moi, qui m'a marqué, qui a sans doute marqué aussi tous les téléspectateurs le soir de la victoire contre l'Angleterre et donc le soir du Grand Chelem. Vos larmes, Antoine Dupont, et au coup de sifflet final, vous dites avec la larme à l'œil, on repense à tous les sacrifices. Et vous avez aussi dit qu'en regardant ce film, là, le stade donc, qui est en salle dans 10 jours, vous vous êtes rendu compte à quel point les moments de bonheur étaient fugaces. La première joie collective là, dans le film Le Stade, c'est à la 38e minute, parce que c'est ça le rugby, quelque part, c'est du sang, c'est des larmes, c'est de la fonte et de temps en temps quelques larmes de bonheur.
Mais ouais, c'est ça, c'est beaucoup de labeur, on dit de sacrifice, d'entraînement au quotidien pour espérer pouvoir soulever quelque chose et fêter quelque chose à la fin de l'année. Le film reflète bien ça. Et au final, c'est aussi le reflet de notre saison, puisque je crois qu'on fait 36 matchs l'année dernière pour au final 2 victoires qui nous procurent un bonheur immense.
Romain, on parle de sacrifice. C'est vrai que dans le film réalisé donc par Eric Enzo et Mathieu Voller, qui est donc en salle dans 10 jours, ce sont des images qui se répètent. L'entraînement, les blessures, on vous voit, vous, au tout début du film, la mâchoire cassée sur la pelouse. Vous avez 22 ans, Romain, c'est souvent l'âge des expériences, de la liberté. Est-ce que vous ne regrettez jamais le choix d'avoir dédié votre vie, votre jeune vie au rugby et parfois votre mâchoire aussi?
Non, non, c'est certainement pas. C'est vrai qu'on y pense, enfin personnellement j'y pense pas même jamais. Donc on l'a choisi quand même cette voie depuis petit et depuis adolescent. Et on savait les sacrifices qu'il fallait faire. On savait que si on se donnait les moyens, on n'allait pas avoir, on va dire, une vie de jeune adulte normale. Donc non, honnêtement, on ne regrette pas. Et puis quand on voit les sacrifices qu'on fait pour avoir le bonheur à la fin, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne regrette pas. Non.
Dans ce film, Le Stade, la star, je suis désolé pour vous les gars, mais il est au bout de cette table, là, dans la salle où nous enregistrons en ce moment, c'est votre coach Hugo Mola, avec des causeries à rendre jaloux Aimé Jacquet. Je vous propose d'écouter un extrait.
Il a une putain d'histoire, ce maillot. Il peut paraître old school, mais il a une putain d'histoire. Et vous pouvez continuer à écrire l'histoire. La seule chose qui fait gagner, c'est quand on ne se cherche pas d'excuses et qu'on s'envoie comme des clubs. Et avec les joueurs que vous êtes, il n'y a pas de raison que ça gagne pas. La touche, la mêlée, le jeu au pied, l'occupation, ça c'est pour les branlettes de la data. Et j'en ai rien à branler de la data. Donc on va s'envoyer comme des lions, comme les mecs que vous êtes. Bon match.
Voilà, alors ces causeries, elles rythment le film. Elles sont assez fantastiques, il faut le dire. On sent que ça vous motive particulièrement. Et là, il parle du maillot toulousain, votre entraîneur. Antoine, vous êtes à Toulouse depuis 2017, si je ne me trompe pas. Romain, vous avez grandi avec ce club-là, avec votre papa, Émile, qui jouait avec ce maillot. C'est un maillot particulier. Il se passe quelque chose quand on l'enfile.
Oui, bien sûr. Enfin, encore plus pour Romain, évidemment. Mais même moi, quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans, quand je demandais à Noël le maillot du Stade Toulousain pour pouvoir le porter aux entraînements avec mes copains, sans penser une seule seconde un jour que j'aurais la chance de le porter. Donc de pouvoir y jouer, de pouvoir gagner des titres avec ce maillot sur les épaules, c'est des sentiments assez durs à décrire. Mais c'est sûr qu'il a beaucoup, encore, que les titres ont encore plus de signification quand on les gagne avec un club avec lequel on a autant d'affect.
On évoque votre papa, Romain, mais vous dites souvent, si j'en suis là, c'est grâce à ma maman.
Bah c'est la vérité, parce qu'elle a été, on va dire, plus souvent là que mon père qui avait pas mal de déplacements. Et c'est vrai qu'elle a essayé de nous faire progresser au rugby comme elle pouvait. Donc c'est vrai que quand on voulait aller taper au ballon, même quand il pleuvait ou qu'il faisait froid, c'est elle qui s'en occupait, elle nous renvoyait les ballons. Elle s'appliquait à bien le faire, donc elle a fait ça pendant toute notre jeunesse. Mmh. Donc elle a eu d'autres casquettes, toutes les casquettes d'ailleurs, et plus le rôle de coach. Donc elle a été très importante.
Aujourd'hui, tous les deux, vous jouez ensemble en charnière à Toulouse, vous jouez ensemble en charnière en bleu, vous êtes potes. Est-ce que sur le terrain, vous vous surprenez des fois à vous dire, mais c'est incroyable, on se trouve les yeux fermés, Antoine Dupont?
Ça devient naturel, donc on ne se pose plus trop la question. On a la chance de pouvoir évoluer ensemble en club et en équipe de France, et ce depuis déjà 3 ans. Sur le terrain, on se parle très peu parce qu'on anticipe à chaque fois le geste de l'autre, et juste en se croisant du regard, on sait ce que l'autre va ou a envie de faire. Donc c'est sûr que c'est un avantage.
Vous pourriez jouer contre Antoine, Romain?
Ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être compliqué. Bon, heureusement, on a la chance d'évoluer ensemble, et ce pour quelques temps encore. Donc non, normalement, ça devrait bien se passer. On se croise de temps en temps aux entraînements contre, donc c'est déjà bien.
Antoine a été élu meilleur joueur du monde l'an passé. On vous compare souvent au Mbappé du rugby. La comparaison, vous la validez, Romain?
Oui, on la valide. Même si Antoine, lui, a été élu meilleur joueur du monde.
Bon, et pas Mbappé, c'est ça.
Mbappé, ouais. Pas encore, mais si, je pense que ça devrait pas tarder. Mais non, la comparaison, elle est toute trouvée. Et puis, je pense qu'on a la chance d'avoir des jeunes sportifs très, très bons qui portent haut les couleurs de la France. Et je pense qu'il faut qu'on en profite et il faut en être fier. Ouais.
Antoine, cette comparaison, comment vous la jugez? Elle vous flatte? Vous assumez le statut de meilleur joueur du monde aujourd'hui? Vous arrivez à prendre du recul, à vous dire, bah oui, j'ai été élu meilleur joueur du monde?
Non, c'est dur à mesurer, ne serait-ce que le titre, il peut être lourd à porter. Donc évidemment que c'est énorme et vraiment beaucoup de fierté. C'est très flatteur de recevoir un prix comme ça, mais il ne faut pas trop s'y attarder dessus, sinon on pourrait s'y endormir.
Alors vous êtes meilleur joueur du monde, mais dans le film, on voit votre coach remettre à chacun des joueurs, avant la toute fin de la saison, avant une finale, les maillots de vos premiers clubs. Là où vous avez commencé petit, Antoine, c'est Castelnau Manoyac, je sais pas si je prononce bien.
Manoyac,
dans les Hautes-Pyrénées. Vous êtes toujours proche de ce club amateur. Vos copains d'enfance, votre frère joue encore, votre oncle entraîne. Même quand on est meilleur joueur du monde, c'est important de ne pas oublier d'où on vient.
Certainement, en tout cas pour moi c'est naturel, donc je me pose pas la question. Évidemment que le fait que d'avoir ma famille, j'ai des cousins qui jouent aussi dans le club, mon frère et toute ma famille qui habitent là-bas, donc pour moi ça me semble naturel. Même pendant le tour de destination, on avait des périodes de repos, je suis passé au club faire un petit entraînement avec eux, et alors ça me semblait juste normal d'être comme quand j'étais petit, que j'avais 14 ou 15 ans et que j'allais jouer au stade avec mes potes.
Merci Antoine Dupont, merci Romain Tamac d'avoir été ce soir nos invités sur RTL quelques jours, 3 semaines seulement après le grand chelem avec les Bleus et avant la sortie en salle, donc le 13 avril du stade.
Merci à vous.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Et dans un instant, RTL Soir continue avec Demander le programme à 6 jours de l'élection présidentielle. Quelle énergie pour notre avenir, nucléaire ou non? Que proposent les candidats? On va vous aider à faire votre choix et puis laissez-vous tenter dernière dans les coulisses des répétitions de la famille du tronc.
Il y en a qui comptent, qui revendiquent, qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste.
Ah, tout de suite sur RTL.
Je retourne ma veste.
RTL Soir, Julien Cellier. RTL.
Bonne fin de journée, RTL Soir, 18h31.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et Marion Calais vous rappelle maintenant les trois titres de l'actualité. Marion, c'est à vous.
Vers de nouvelles sanctions après les crimes de Boutcha en Ukraine. L'Europe et les États-Unis l'envisagent. En déplacement dans la ville, le président ukrainien a dénoncé des crimes de guerre et un génocide. Le dernier rapport du GIEC, les solutions face au réchauffement climatique, réduction de l'utilisation des énergies fossiles ou encore limitation de la consommation de viande pour tenir une hausse des températures à 1,5 degré comme dans les accords de Paris. Des énergies fossiles qui restent pour l'heure la norme, notamment pour les automobilistes qui ont vu les prix baisser à la pompe. 22 centimes de moins pour le litre de gasoil la semaine dernière grâce à la baisse des cours et à la remise gouvernementale.
Merci Marion. L'autre titre, c'est bien entendu le froid, Louis Baudin, mais ça ira un petit peu mieux demain.
Oui, un petit peu mieux. Alors même si dans le sud, on l'aura encore avec le ciel dégagé de cette nuit, des gelées autour de la vallée de la Garonne ou encore près de la vallée du Rhône. Dans le nord, là, fini les gelées avec un ciel déjà très nuageux. Et d'ailleurs, en cours d'après-midi, on retrouvera une limite assez classique entre Bordeaux et Genève. Au nord, ça sera très nuageux avec quelques pluies faibles et dispersées. Et au sud, là, ça sera du grand soleil. Donc les températures dégelées, malheureusement encore, le matin dans les régions du sud. Il n'y en aura plus dans le nord. Et l'après-midi, nous serons entre 12 et 14 degrés dans la moitié nord, 14 à 16 degrés dans la moitié sud.
Merci Louis.
Présidentielle 2022. Demandez le programme.
Et J-6 avant le premier tour de l'élection présidentielle, comme tous les soirs à 7h06, c'est demander le programme. Qui propose quoi ? Aujourd'hui, cette question, quelle énergie pour les 10, 20, 30, 40, 50 ans à venir ? Ce matin, RTE vous appelait, vous les Français, à consommer moins pour éviter les coupures, parce qu'il faisait, on l'a dit, très froid, et surtout la moitié de nos réacteurs nucléaires est aujourd'hui à l'arrêt. Du coup, on s'interroge. Quelle énergie à l'avenir ? Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
Parmi les 12 candidats, il y a les pro-nucléaire.
Oui, alors déjà, ils sont tous d'accord pour réduire le pétrole, hein, le charbon, les énergies fossiles. Mais qu'est-ce qu'on met à la place ? Là, le débat est tranché. Donc, il y a ceux qui misent effectivement sur le nucléaire, qui ne croient pas aux énergies renouvelables et qui même détestent les éoliennes. Marine Le Pen veut démanteler progressivement les parcs qui existent. Éric Zemmour aussi veut les interdire pour préserver les paysages. Nicolas Dupont-Aignan compte même les faire disparaître toutes en 5 ans. Jean Lassalle explique qu'elles rendent malades les vaches. Donc, à la place, effectivement, ces candidats défendre le nucléaire.
À l'inverse, il y a les candidats qui veulent abandonner à terme le nucléaire.
Oui, Philippe Poutou veut fermer tous les réacteurs en 10 ans. Yannick Jadot se donne un peu plus de temps, 2035. Il y a ceux qui veulent en finir, mais progressivement. Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas de précipitation pour ne pas faire flamber le prix d'énergie. Anne Hidalgo ne veut pas construire de nouvelles centrales, mais elle veut garder les vieilles et sortir du nucléaire en 2050 en développant les énergies vertes.
Et puis il y a ceux qui veulent un peu des deux, voilà, du nucléaire, du renouvelable.
Exactement, à la fois construire des réacteurs comme Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse. Fabien Roussel, le seul candidat de gauche qui est favorable. Les communistes ont toujours soutenu cette filière industrielle tout en développant aussi les énergies renouvelables, les éoliennes plutôt en mer surtout. Donc faire ce qu'on appelle un mix énergétique.
Demandez le programme, l'énergie des prochaines décennies. C'était avec Virginie Garin ce soir pour RTL. Merci Virginie.
Présidentielle 2022, demandez le programme.
Il est 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, place à Laissez-vous tenter, dernière maintenant. Les jolis moments du soir grâce à notre service culture avec un reportage exceptionnel vraiment maintenant. 8 jours avant le coup d'envoi de leur tournée, Jacques et Thomas Dutronc ont ouvert à RTL les portes de leurs ultimes répétitions. Bonsoir Steven Bellery.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
En exclu, vous étiez vendredi dans la salle où le papa et le fiston peaufinent leur spectacle.
Oui, un studio à la scène musicale près de Paris. Jacques arrive, Santiago pied, cigare aux lèvres et lunettes sur le nez. Thomas, look décontracté, pose au sol la liste des chansons. 23 sont prévues.
On attaque ?
Allez, en piste. Dernière répète de la semaine.
Si quelqu'un aime les huîtres, j'en ai quelques-unes. Je vous conseille un petit filet de citron.
Et moi, et moi, et moi, le tout premier succès de Jacques Dutronc ouvrira le concert à presque 79 ans. Et même s'il traîne des pieds, il étonne par son énergie et son oreille affûtée.
Est-ce que c'est obligatoire de faire seulement un tour entre chaque truc ? Putain, tout est débit, débit, débit. Hein.
Moi, mon truc, c'est que tous les gens, ils ont écouté tes disques. Enfin, je trouve que le morceau est déjà long comme ça. Enfin, je trouve ça long déjà, mais...
D'ailleurs, il y a un peu là.
Enfin, si tu veux, bien sûr.
Défilé de chansons prompteurs. Au revoir, suivant.
On enchaîne.
Les Playboys, on nous cache tout, on nous dit rien, fais pas ci, fais pas ça, que des tubes cadeaux, les répétitions de Merde in France.
Oui,
Il y a quelque chose quand même de presque inespéré, hein, Steven, de voir les Dutronc faire revivre ces chansons.
Oui, et surtout une telle communion, confidence du duo.
Plus une émotion familiale en plus. Bien sûr que c'est rempli d'émotions tout ça, mais là on n'en est qu'aux yeux humides. On attend les larmes, les vraies quoi. Non mais j'aime pas beaucoup les répètes, je dois avouer. Non, c'est souvent trop carré, et ça manque d'instinct. Voilà.
Et moi j'adore répéter, parce que j'aime bien pinailler, mettre au point des petits détails, tout ça, et ça n'empêche pas du tout au dernier moment de tout oublier et de se laisser aller. Mon envie, c'est vraiment de coller à ces chansons de mon père, pour moi éternelles, qu'on a tous dans les gènes, qu'on a tous dans le cœur. Il faut se rappeler bien de sentiments que ça donne en écoutant ces musiques et d'essayer de refaire le même sentiment.
Plus de 50 dates sont prévues, ça va être un sacré marathon.
Ouais, prévu peut-être, mais sans moi.
Ça fait plaisir, autant d'enthousiasme.
Jacques et Thomas Dutronc sont en tournée festival cet été, Zénith et Arena dès le 3 novembre. Ultime date Paris-Bercy, le 21 décembre.
Et les rendez-vous sont déjà notés, bien notés sur les agendas. Merci beaucoup Steven Bellery pour ces moments assez exceptionnels ce soir dans Laissez-vous tenter dernière.
Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne à l'est. Je retourne à l'est.
Allez, petite pause. Et ensuite, RTL Soir va se poursuivre. On va défaire le monde. Les 20 minutes d'actu autrement, comme tous les soirs. Céline Landreau, Néri Saïmani, Laurent Tessier viennent de s'installer en studio. Bonsoir, les amis.
Bonsoir.
Et on
Bonsoir.
Va défaire dans un instant le cinéma. Les 700 salles des méga CGR sont à vendre. À l'avenir, irons-nous encore ici en France voir les films sur grand écran? Élément de réponse après ça. À tout de suite.
On défait le monde. C'est dans un instant sur RTL.